Vincent Holzer, nous allons entrer dans la Semaine Sainte et auparavant l'Évangile de la Passion en ce dimanche des Rameaux dans Saint Matthieu. Saint Matthieu qui fait parler les passants et ces passants qui crient au Christ « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » ou encore « Que Dieu le délivre s'il l'aime car il a dit « Je suis le Fils de Dieu » et finalement la passion se termine quand le centurion dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Donc un titre « Fils de Dieu » qui n'est pas employé du tout de la même façon pour les uns et pour les autres.
Oui, vous avez raison d'insister sur ce point. Dans le petit parcours que nous avons eu durant ces 5 dimanches, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de ce titre. Fils de Dieu, et j'ai insisté sur la manière dont Jésus non seulement le revendique, mais en vit par toutes les fibres de son être. Et je tiens vraiment à me faire comprendre sur ce point. Il est clair qu'il y a un malentendu chez un certain nombre d'interlocuteurs de Jésus quant à la juste compréhension de ce titre. Et il faut revenir au récit des tentations. Nous avons vu que Jésus se reçoit d'un autre. On pourrait même dire que l'existence de Jésus, c'est cette réception ininterrompue de tout ce qu'il est comme don venant du Père. Et c'est ainsi qu'il révèle la véritable nature de sa filiation divine éternelle. Il est celui qui vient du Père. Et le Père lui donne d'être fils dans l'amour. En d'autres termes, Jésus est le fils de l'amour du Père. Et donc, dans la bouche de Jésus, mais surtout dans les œuvres de Jésus, sa puissance de fils de Dieu, elle s'exprime par le don de la vie. Sa puissance de fils de Dieu, elle s'exprime dans ses œuvres. Et ses œuvres, nous l'avons vu, au moins à 3 reprises, sont des œuvres de salut. Et plus précisément encore, ce sont des œuvres qui nous confèrent le don de la filiation adoptive. Or, je dis, il y a un malentendu, parce que les passants dont il est question dans le récit de la Passion tiré de l'Évangile de Matthieu se trompent totalement. Ce qu'ils ne découvrent pas, c'est que ce titre porte en lui non seulement la révélation de l'identité de Jésus, mais il porte aussi en lui le don que Dieu veut nous faire. Ce n'est pas un titre exclusivement réservé à Jésus. Il se trouve que par le baptême, nous avons part à la filiation dite adoptive. Ce qui est de Dieu nous est donné. Nous ne changeons pas de nature, cela va de soi. Nous ne sommes pas des dieux, non. Mais nous devenons vraiment fils et filles de Dieu. Et dans le récit de la mort de Jésus, nous constatons évidemment que Dieu ne répond pas au sarcasme des passants. Il faut le temps de l'attente. Et ce temps, il est en particulier marqué par l'événement douloureux de la mort de Jésus qui signe la radicalité du don, qui est aussi au fond un abandon que Jésus va éprouver au plus profond de lui-même. Dans cet abandon, Jésus porte les conséquences du refus pécamineux dont sont coupables les passants et tant d'autres qui n'ont pas su reconnaître dans la personne et l'existence de Jésus ce grand don que Dieu veut nous faire. La sollicitude de Dieu atteint son point culminant dans cette mort d'abandon, par laquelle Jésus se dépossède totalement de son existence. Il se dépossède totalement de son existence pour la livrer, et il la livre en offrande obéissante. Et il nous guérit de nos refus, c'est-à-dire de notre cécité. Et il nous ouvre un chemin qui est celui de la reconnaissance de ce don, c'est-à-dire de cette dépendance aimante.
Est-ce que finalement c'est ce que révèle le centurion ? Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu ?
Oui, c'est clair. Le centurion est saisi d'une grande crainte à la vue du tremblement de terre et de tout ce qui arrive. Il y a matière à interprétation ouverte. Est-ce que la profession de foi du centurion est une profession de foi parfaitement adéquate? Oui, sur le plan des mots, incontestablement. Qu'est-ce qui provoque la profession de foi du centurion? Ce sont ces événements grandioses qui accompagnent la mort de Jésus. Mais là encore, on peut dire que ces événements grandioses, c'est-à-dire tremblement de terre, voile du sanctuaire qui se déchire en deux, du haut en bas, les rochers qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent, évidemment, ces événements-là sont les signes avant-coureurs de la victoire finale. Et il est clair que dans l'intrigue évangélique, ces signes sont les signes évidents, enfin pour les yeux en tout cas, évidents de la fin des temps. Donc on comprend qu'à la vue de ces signes, le centurion émette cette affirmation « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». On peut aussi penser qu'il émet cette profession de foi en voyant Jésus mourir ainsi, c'est-à-dire Jésus qui, jusqu'au bout, invoque Dieu et remet sa vie entre ses mains. Car l'expression psalmique « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ne doit pas nécessairement être lu comme l'expression d'une détresse ou d'une angoisse de Jésus. Je pense qu'il ne faut pas donner à cette invocation psalmique ce sens psychologique. Je pense qu'on doit aussi lui donner un sens plus, entre guillemets, plus positif, c'est-à-dire que c'est encore un cri de confiance et l'expression de la totale confiance de Jésus dans l'œuvre du Père qui est en train de s'accomplir. Et donc, à la vue de cette manière de mourir et de s'en remettre à Dieu, le centurion reconnaît en Jésus le juste par excellence, c'est-à-dire le vrai Fils de Dieu.